C'est fou ce que la psychiatrie a changé.
L'homme qui n'entend pas la musique pense que le danseur est fou.
Les boulons.
Les boulons.
Les boulons.
L'émission des boulonnais.
Bonjour, bonjour à tous pour notre 108e émission, l'émission des boulons, l'émission des boulonnais. Une émission spéciale à beaucoup, beaucoup de titres. Je vais vous expliquer au fur et à mesure, mais je peux déjà vous dire que nous ne sommes pas dans notre studio d'enregistrement habituel. Nous sommes à l'hôpital du Chêne de Boulogne-sur-Mer, dans le hall de Boulogne. Aujourd'hui, nous fêtons nos 9 ans, les 9 ans des boulons. Et c'est une émission spéciale aussi parce que nous sommes dans le cadre de la semaine de la santé mentale. Et le jour aussi, la journée de la santé mentale, c'est aujourd'hui, la journée nationale de la santé mentale.
Mondiale,
excusez-moi. Oula.
C'est pas grave.
Je suis autour de la table aujourd'hui, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de soignants. Normal, on est dans un hôpital. Et je vais co-présenter l'émission aussi avec des soignants qui font aussi partie de l'équipe des boulons. Je vous présente Luc, Cédric, Yannick, bonjour.
Bonjour.
Bonjour. Bonjour.
Nous accueillons aussi Madame Pamelard, que je vous présente très bientôt, ainsi que Cynthia et Anne, qui sont aussi des soignantes, et nos chroniqueurs habituels, Thomas, Vanessa, Virginie, Jean-Claude. Je pense que j'ai fait le tour.
Non, t'as oublié Michel, Fernande, qui sont en train de...
Voilà, Michel et Fernande sont...
De promouvoir la santé mentale.
Nous, en train, voilà, de promouvoir la santé mentale, de vendre des badges à l'entrée de l'hôpital. Et ils vont nous rejoindre un peu plus tard pour la suite de l'émission. Donc, bienvenue à tous. Et je vais présenter aussi cette émission spéciale avec les co-soignants des boulons. Donc, Luc et Cédric et mon acolyte Yannick, je compte sur vous.
Il n'y a pas de souci.
On va tout de suite lancer l'émission en interviewant la grande chef de cet hôpital psychiatrique que je ne connais pas, mais j'ai nommé le docteur Pamelard. Bonjour docteur.
Bonjour.
Bienvenue à vous et merci à notre table. Vous êtes donc le chef de service de l'hôpital psychiatrique, c'est ça ?
Je suis le chef de service de psychiatrie
de l'hôpital de
Boulogne.
Merci d'être là. On va vous poser quelques questions avec mes collègues. Est-ce que vous pouvez me dire déjà, vous, votre rôle en tant que soignante ici ?
Dans l'hôpital ?
Ouais.
Eh ben, je suis psychiatre, je suis médecin. Donc voilà, en tant que médecin, on a en charge un certain nombre de patients hospitalisés, mais on a aussi des suivis au CMP, en ambulatoire. On participe à la permanence de soins aux urgences et dans les services. Voilà, on assure permanence de soins 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 à l'hôpital.
Et depuis combien de temps vous êtes là, en fait, à l'hôpital ?
Eh bien, 4 ans à Boulogne.
D'accord.
Et je suis chef de service depuis le 1er janvier de cette année.
Et vous consultez avec des patients ou vous êtes vraiment du côté gestion
Non, mon activité, elle est médicale. On essaie de se trouver des petits bouts de temps pour faire ce qui est administratif, on va dire.
D'accord.
Voilà, mais la priorité reste...
C'est la priorité médicale.
Les malades.
D'accord.
Alors, ça consiste en quoi être chef de service, en fait ?
C'est une bonne question. La priorité, c'est de en tout cas, autant qu'on peut, c'est de rester un soignant avant tout et de penser soigner dans un premier temps. Et c'est pas évident, parfois, de se retrouver confronté à la direction, à la prise de décision. C'est vrai que quand on est médecin, on n'est pas du tout formé pendant nos études à ce type de pratique. Donc il faut surtout pas oublier... Pourquoi on est à l'hôpital, avant tout.
Ok.
Voilà, et c'est de travailler dans le bon sens.
D'accord. Si jamais une personne a un problème, justement, d'ordre psychiatrique, comment fait-elle pour vous voir ?
Ça dépend où elle veut nous rencontrer.
Elle téléphone à l'hôpital, je vais pas bien. Comment elle peut faire, en fait, pour pouvoir vous rencontrer ?
Alors, en général, ça passe soit quand les patients ont besoin de rencontrer un psychiatre, ça passe par la secrétaire, l'appel est pris par la secrétaire, souvent. Alors, soit par les secrétaires qui sont sur l'hôpital, en psychiatrie, soit les secrétaires au CMP. En général, quand le patient souhaite une prise en charge en ambulatoire, l'appel est de toute façon retransmis à la secrétaire au CMP qui prend la demande du patient. Et le patient est rencontré en première intention au CMP par une infirmière qui ensuite réoriente le patient aux besoins. Voilà. sur le CMP sur lequel je travaille, on a un briefing tous les 2 semaines à peu près où on évalue la demande de la quasi-totalité, on va dire, des patients qui auraient besoin en tout cas d'un psychiatre et ou d'un psychologue.
Je crois que ce qui est important de dire aussi, c'est que la psychiatrie est sectorisée depuis très longtemps. Je ne vais pas dire la date, mais je crois que c'est
1960,
il me semble. Je le savais, mais bon. Et du coup, la première question que la secrétaire va poser, c'est le lieu de résidence. Et en fonction du lieu de résidence, elle va orienter soit secteur sud, soit secteur nord, puisque dans le Boulonnais, on n'a que 2 secteurs, le nord et le sud, qui se matérialisent comme ça. C'est très simple pour les gens qui connaissent bien Boulogne. C'est la Grand Rue. Tout ce qui est à gauche de la Grand Rue, c'est secteur nord. Et tout ce qui est à droite, c'est secteur sud. Voilà, et ça s'étend jusqu'à 800. Enfin voilà, c'est le petit repère que l'on donne quand on ne sait pas. Voilà. Et donc le docteur Pamelard, elle travaille au secteur sud.
Est-ce que quelqu'un d'autre autour de la table aurait une dernière question à poser au docteur Pamelard ?
Non.
Okay. Bon, donc, bah, pour le moment, du coup,
merci, docteur, pour votre
intervention. Et on va maintenant interviewer une patiente expert, notre patiente des boulons. Vanessa, on t'écoute. Tu voudrais nous parler de ton témoignage ?
Alors oui, voilà, c'est pas une interview, c'est un témoignage. Alors, je m'appelle Vanessa. Hein, y en a qui me connaissent et d'autres non, hein, par rapport au boulon. Hein, je suis chroniqueuse quand même depuis 2016, depuis le début.
Alors depuis moi, le début, en effet, Vanessa, ouais, t'as démarré avec nous. On était 5 à l'époque. Mmh. En effet.
C'est vrai. Voilà.
C'est vrai.
Toujours là.
On n'a pas changé, Vanessa.
Non, mais et fière d'être là aujourd'hui parce que c'est quand même une journée importante. C'est un sujet important. Et c'était le but que j'espérais en participant à un atelier thérapeutique comme ça. Donc merci à vous. Alors voilà, moi j'ai pour habitude de me livrer sur mon histoire face à la maladie. En effet, c'est dans un chaos familial et suite à une décompensation après mon premier accouchement en 2001 que s'est posé un diagnostic, une maladie psychique. Aujourd'hui, j'ai décidé de témoigner pour cette journée mondiale de la prévention de la santé mentale. Parce qu'il faut savoir que c'est pendant souvent l'adolescence que se créent de multiples raisons familiales, sociétales ou problèmes d'addiction, que se crée un mal-être. Et que c'est vrai que dans les familles, le sujet de voir un psychologue ou d'être suivi, ça reste quand même un sujet assez tabou. Donc moi, pour ma part, aujourd'hui, je vais mieux. Si j'avais eu un soutien psychologique, peut-être pendant mon adolescence, peut-être que ça aurait pu éviter ce drame, parce que pour moi c'était un drame à cette époque. Hein. Donc voilà, aujourd'hui je vais mieux et je tenais à remercier justement tous ceux qui sont autour de la table. Cédric, Luc, Yannick et Monsieur Oukil, mon psychiatre.
Ton psychiatre adoré.
Oui, mon psychiatre adoré. Que je vois justement tout mensuellement. Remercier l'accompagnement que j'ai eu pendant toutes ces années. Alors moi, mon message aujourd'hui de prévention, justement, ce serait de conseiller les gens d'en parler, d'être accompagnés. Moi, ma prévention aujourd'hui, c'est n'ayez pas peur d'en parler et il y a des solutions derrière et voilà. Donc merci. Ouais. Alors la maladie n'est pas une fatalité, on peut réussir, hein, et voilà. Donc voilà, c'était juste un petit remerciement pour l'accompagnement que j'ai et voilà. Prenez soin de vous.
Mais merci Vanessa, tu viens très justement du coup de nous parler de toi. Merci beaucoup de ta confiance.
Merci.
Et de ton témoignage. On va passer à Cynthia qui vient aujourd'hui, merci de m'intervenir aussi dans notre émission, qui va venir nous parler du CMP. Cynthia, bonjour, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots s'il vous plaît ?
Bonjour et merci de m'accueillir. Ça me fait vraiment plaisir d'être parmi vous. J'en suis très heureuse et très fière, ça vraiment je voulais le dire. Donc moi, jadis, j'avais un autre métier et en 2010, j'ai repris des études infirmières à l'EFSI de Boulogne-sur-Mer. En 2013, j'ai fait quelques remplacements en EHPAD et en foyer de vie. Et très rapidement, on m'a proposé un poste d'un mois en psychiatrie. Et on m'avait dit, on ne vous gardera pas parce qu'on n'a pas besoin. Et aujourd'hui, je suis toujours là. Donc j'en suis très heureuse. Donc j'ai commencé à l'hôpital, au centre psychiatrique dans le service des dunes où j'ai travaillé de nombreuses années. J'ai fait des remplacements aussi à la vallée et au large. Et aujourd'hui, je suis au CMP depuis 2020. Donc, je suis au CMP, je travaille seule dans un bureau, mais j'ai surtout, je suis surtout entourée d'une équipe pluridisciplinaire. Ça, je voudrais vraiment insister, parce qu'en fait, on n'est jamais seul au CMP. Je travaille avec des secrétaires, une assistante sociale, des psychologues, mes collègues infirmiers et infirmières et des psychiatres.
Et toutes les personnes qui viennent vous voir au CMP, elles viennent pourquoi ?
Alors, les personnes qui viennent nous voir au CMP, ce sont des personnes qui ont besoin de verbaliser, qui ont des problématiques et qui demandent de l'aide et un soutien psychologique. Nous, nous sommes là pour répondre à cette demande de soutien. Nous voyons aussi des personnes qui sont en mal-être, hein, qui ont des syndromes anxio-dépressifs, des dépressions, qui sont en burn-out, qui ont des situations aussi conflictuelles au niveau de leur famille, des difficultés relationnelles dans leur travail. Et enfin, nous recevons aussi des personnes qui vivent des émotions exacerbées dans le cadre d'une pathologie, une pathologie psychotique, qui demandent un soutien ou une réévaluation de traitement. Donc nous, nous sommes là pour les accompagner.
D'accord, mais j'ai quand même entendu dire qu'il faut au moins 6 mois pour avoir un rendez-vous au CMP.
Non, je ne suis pas d'accord.
Alors, oui et non. Vous allez me dire, qu'est-ce que c'est que cette réponse,
ça.
En fait, aujourd'hui, le CMP donne un accès quand même aisé dans les délais, moi je trouve. C'est vrai qu'on peut avoir un délai pour avoir un rendez-vous avec un psychologue et un psychiatre. Ça, j'avoue, ça peut être un petit peu long. Mais il faut savoir que nous, les infirmiers et les infirmières, nous sommes là. Et que quand nous accueillons quelqu'un, nous pouvons faire un suivi, l'accompagner, le temps justement d'avoir ce rendez-vous tant attendu avec le psychologue, la psychologue et le psychiatre. Donc on essaye de répondre, nous, les soignants, le plus vite possible, quand même.
Et puis, oui, il faut dire aussi, Cynthia, que quand c'est une situation dite d'urgence, ou palliée à l'urgence, hein, il y a la situation d'urgence où ils vont pallier directement à l'urgence.
Oui.
Il faut le dire quand même,
oui,
hein,
oui,
c'est
tout
ce
à
que
fait.
Vous faites. Hein.
Oui, puis ma question était un peu provocatrice. Hein. Je sais très bien aussi comment ça peut se passer quand on appelle, si on appelle Cédric, nous, par exemple.
Ah bah...
Il répond.
Ah,
et
ah bon
il est très réactif. Enfin, voilà, on sait que les infirmiers peuvent être très réactifs au CMP.
C'est le but.
Donc, merci beaucoup.
C'est le but. Hein. Comme elle a dit Cynthia, c'est une équipe pluridisciplinaire qui interagit tout le temps. Et on interagit tout le temps, en fait. Et ça, c'est important.
Oui, ça, c'est vrai.
Voilà qui nous rassure beaucoup. Merci. On va marquer une première pause musicale. Et on a choisi une chanson de Stromae qui s'appelle Santé.
Santé.
Bonne écoute à tous.
À ceux qui n'en ont pas, à ceux qui n'en ont pas. Rosa, Rosa, quand on fout le bordel, tu nettoies. Et toi, Albert, quand on trinque, tu ramasses les verres. Céline, Bataire, toi tu te prends des vestes au vestiaire. Arlette, arrête, toi la fête, tu la passes aux toilettes. Et si on célébrait ceux qui ne célèbrent pas? Pour une fois, j'aimerais lever mon verre à ceux qui n'en ont pas, à ceux qui n'en ont pas. Quoi les bonnes manières? Pourquoi je ferais semblant? De toute façon, elle est payée pour le faire. Tu te prends pour ma mère? Dans une heure, je reviens, que ce soit propre, qu'on puisse y manger par terre. 3 heures que j'attends. Franchement, il est fabrique ou quoi? Heureusement que c'est que de verre. Appelle-moi ton responsable. Et fais vite, elle pourrait se finir comme ça, ta carrière. Oui, célébrons ceux qui ne célèbrent pas. Encore une fois, j'aimerais lever mon verre à ceux qui n'en ont pas, à ceux qui n'en ont pas. Si tu ne me connais pas, brosser, brosser,
tu pourras toujours te brosser, brosser. Si tu ne me respectes pas, oui, célébrons ceux qui ne célèbrent pas. Encore une fois, j'aimerais lever mon verre à ceux qui n'en ont pas, à ceux qui n'en ont pas. Pilote d'avion ou infirmière, chauffeur de camion, hôtesse de l'air, boulanger ou marin pêcheur, un verre aux champions des pires horaires, aux jeunes parents bercés par les pleurs, aux insomniaques de profession, et tous ceux qui souffrent de peine de cœur, qui n'ont pas le cœur aux célébrations. Qui n'ont pas le cœur aux célébrations.
C'est fou ce que la psychiatrie a changé.
L'homme qui n'entend pas la musique pense que le danseur est fou.
Les boulons.
Les boulons.
Les boulons.
L'émission des boulonnais.
Re-bienvenue à notre 108e émission des boulons, l'émission des boulonnais, 9 ans déjà. Cynthia, pour terminer avec votre intervention, j'aimerais vous poser la question de votre mission à vous au sein du CMP.
Oui, donc après que la personne a appelé au CMP, hein, après l'entretien téléphonique avec la secrétaire, hein, ce sera le premier contact, c'est important. Donc je rappelle la personne pour lui donner un rendez-vous. Et je dirais que ma mission première, c'est vraiment de l'accueillir, de savoir l'accueillir et de l'écouter attentivement, sans jugement. Ça, pour moi, c'est vraiment la priorité. De lui apporter par la suite un soutien, un accompagnement, hein, à sa demande. Et de l'orienter si besoin, soit à la demande ou à l'orientation du médecin traitant, ou soit si j'estime que je peux l'orienter auprès de la psychologue et ou du psychiatre.
Très bien, merci beaucoup. Est-ce qu'on peut avoir un numéro de téléphone où on peut vous contacter ?
Bien sûr. Alors 06, non, ça c'est mon numéro de téléphone. Donc le numéro de téléphone du CMP Nord, c'est le 03 21 99 38 79.
Qui se trouve pour l'instant place Navarin. Le CMP Sud, c'est 03 21 87 62 65, qui se trouve rue Edmond-Edouin. Et dans quelques mois, les deux CMP se trouveront rue Henri-Martin. Que le public entende bien ça. Ça va déménager.
Ça va déménager grave. On vous rappellera les numéros de toute façon en fin d'émission. On va passer maintenant à une chronique qui a été réalisée par un de nos chroniqueurs de longue date. Oui, j'ai nommé bonjour. Thomas. Bonjour Thomas.
Bonjour Marianne, bonjour à tous. Dans le cadre de la journée mondiale de la santé mentale, je vais vous faire une petite chronique rapide sur la musicothérapie. Parce qu'on en entend souvent parler, mais on ne sait pas toujours exactement ce que c'est, comment ça se passe. Donc la musicothérapie, par définition, c'est l'utilisation de la musique dans une démarche de soins. La musicothérapie est une thérapie utilisant le sonore, le musical et la musique comme éléments médiateurs de la relation soignant-soigné. Elle s'inscrit dans le champ de thérapie de soutien, d'aide. Donc ce n'est pas vraiment un soin, c'est un soutien et une aide. En fait, le processus est souvent ça. Les musicothérapeutes utilisent la musique, l'écoute musicale pour libérer la parole des patients sur leur ressenti à ce qui est passé. Et puis ce que la musique peut nous évoquer. Alors, c'est prouvé qu'elle était efficace dans les maladies cardiaques, la dépression, l'autisme, la toxicomanie, même la maladie d'Alzheimer, et dans d'autres nombreuses pathologies psychiques également, comme les troubles de l'humeur et en cas de traumatisme. Donc, elle peut aider à surmonter les défis émotionnels, mentaux et même physiques. Donc on peut concevoir quand même que la musicothérapie est une pratique de soins, mais aussi de relations d'aide, d'accompagnement, de soutien ou de rééducation, utilisant le son et la musique sous toutes leurs formes, comme moyen d'expression, de communication, de structuration et d'analyse de relations. La seule limite, c'est le choix de la musique. En fait, on choisit en fonction des patients qu'on a en face de soi. Elle doit toucher le patient, peu importe le style musical. Par exemple, on peut même utiliser du métal très violent si c'est un vœu du patient et si ça peut, avoir un intérêt thérapeutique. Pour des séances efficaces, le personnel médical veille à questionner la personne pour l'orienter sur une playlist adaptée. Un bienfait aussi de la musicothérapie, elle réussit à activer les capacités résiduelles de la mémoire. Par exemple, dans la mémoire de mélodies simples, de mélodies nouvelles, les patients souffrant de troubles de la mémoire se rééduquent la mémoire à court terme comme ça. Je terminerai parce qu'on fait écouter de la musique, mais parfois on fait intervenir les patients aussi, on les fait jouer, alors chanter, taper du rythme, mais également quelques instruments. Alors c'est des instruments simples qui sont utilisés, comme des gongs, un diapason. J'ai trouvé des cloches de temple, des cloches simplement, des handpans, les tong drums, ça c'est la même chose, c'est un nouvel instrument, on voit ça depuis quelques années, c'est un cercle avec des lames de métal au-dessus qui font quelques notes et qui sont assez simples à jouer, on peut vite faire quelque chose de joli, on appelle ça des handpans ou des tongs. On peut utiliser également des bâtons de pluie, les chimes, c'est des cloches, des petites clochettes en fait, c'est une percussion, on appelle ça rivière parfois, avec un petit bâton, on tape sur des petites cloches. On peut aussi utiliser les didgeridoo et les pianos à pouces, les sanza. Je ne sais pas si vous connaissez un instrument africain.
Ouais, le sanza,
Il
y en a à l'hôpital de jour de psychothérapie de Boulogne-sur-Mer.
C'est des instruments simples à utiliser dans la musicothérapie et ça fait participer les patients, même s'ils n'ont jamais fait de musique, et c'est très valorisant. Voilà.
Ouais, super.
Merci Thomas. Je pense que c'est important de dire que dans toutes les structures de psychiatrie de Boulogne-sur-Mer, on utilise la musicothérapie sous toutes ses formes. N'est-ce pas, Luc ? Au CATTP, il me semble que tu fais de la musicothérapie.
Alors, je vais pas appeler ça la musicothérapie. Nous, on fait plus des karaokés.
Oui.
C'est pas de la musicothérapie, mais ça leur donne un bien fou.
Ouais. Donc c'est quand même un atelier thérapeutique.
C'est un atelier thérapeutique, tout à fait.
Efficace.
Tout à fait.
Ben, merci beaucoup pour cette intervention. On va maintenant céder la parole à un de nos chroniqueurs qui va interviewer une des soignantes autour de la table. J'ai nommé Jean-Claude et Anne. Bienvenue à vous.
Bonjour, merci.
Bonjour Anne. Vous êtes infirmière au CATTP. Où se trouve le CATTP ?
Absolument. Alors, il se trouve rue Edmond-Edouin à Boulogne, au même endroit que le CMP Sud.
Quels sont les horaires d'accueil ?
Alors, c'est de 9h30 à 16h30, du lundi au vendredi, parce que le week-end, on est fermé.
Quel type de population est accueillie ?
Toute personne suivie par un psychiatre et qui fera une prescription médicale.
Quelles sont les modalités d'accueil ?
Alors, la demande est adressée au docteur Senam, qui est référent du CATTP. Et le patient est ensuite vu pour établir des modalités de prise en charge en début de soins.
Quelles sont les missions infirmières au sein du CATTP ?
Alors les missions, ça va être de proposer différentes activités adaptées à chaque personne. L'idée, c'est de favoriser l'autonomie, la réinsertion, mais aussi maintenir les acquis, mais aussi rompre l'isolement et la solitude. Après, ça va être aussi proposé du soutien par l'écoute et les entretiens individuels aussi, si besoin.
Que fait-on comme activité ?
Alors, il y a différentes activités proposées. Il y a différents jeux de société, des ateliers créatifs qui sont proposés, qui peuvent varier. Il y a aussi deux ergothérapeutes qui viennent en 4 demi-journées dans la semaine, avec qui on travaille en collaboration aussi. Donc les activités changent en fonction des périodes aussi et de la demande. Après, il y a aussi les sorties extérieures qui sont proposées, des randonnées, cinéma, visites culturelles, par exemple. Et ce qui est fait régulièrement aussi, c'est des repas thérapeutiques réalisés sur la base d'un projet avec un cadre défini. C'est établi d'avance, c'est pas comme ça à la carte. Et par exemple, en ce moment, il y a la semaine du goût, puisque je crois que c'est la semaine prochaine, la semaine du goût. Donc voilà, ils suivent le thème. Et puis, il y a aussi un déjeuner presque parfait qui reprend l'idée du dîner presque parfait en émission télé et qui a pas mal de succès aussi.
Moi, je pense qu'il manque quelque chose. Si vous avez oublié qu'ici, on est dans le hall du centre hospitalier, tout le monde ne sait pas ce que ça veut dire, CATTP.
Alors,
nous, on le sait parce qu'on est dedans depuis longtemps.
C'est un centre d'accueil thérapeutique à temps partiel. La différence entre le CATTP et l'hôpital de jour, c'est que l'hôpital de jour, il y a une prescription médicale. Alors que le CATTP, tout le monde peut venir après avoir été vu par le psychiatre, et il peut venir 5 minutes, il peut venir une demi-journée, il peut venir une journée, voire toute la semaine. Et ils ne, si jamais ils ne viennent pas, on ne va pas leur chercher.
Tu leur téléphones pas.
On ne leur téléphone pas, voilà. On ne s'inquiète pas. C'est la seule différence, en fait, entre l'hôpital de jour et le CATTP.
Merci.
Merci beaucoup. On a deux personnes en plus qui sont arrivées autour de la table aujourd'hui. On va commencer par discuter avec Madame Delmotte, qui va être interviewée par Yannick.
Ah bon ? Ah, c'est moi.
Tout à fait.
Alors, je vous présente Madame Delmotte, qui est notre directeur référent du pôle santé mentale. Bienvenue parmi nous.
Bonjour à tous.
Bonjour.
Bonjour.
Alors, vous découvrez notre atelier. Alors, comment vous voyez vos missions parmi nous ?
Eh bien, écoutez, déjà, moi, je suis vraiment ravie de vous rejoindre. C'est vrai que c'est une première. Il n'y a pas très longtemps que j'ai rejoint l'établissement. Super, cette action de déstigmatisation. On est en pleine journée mondiale de la santé mentale. Et en fait, ça fait plus de 10 ans que vous avez commencé à déstigmatiser l'image de la santé mentale ici dans le Boulonnais avec cette émission de radio qui permet de valoriser l'engagement des personnels et puis tout ce que les personnes qu'on accueille ont à dire, à proposer, à créer. Et je trouve ça très intéressant. Ma mission près du pôle, je la vois comme un retour à la source sur l'accompagnement des équipes médico-soignantes en santé mentale et en addictologie. Et puis, c'est aussi pour moi un vrai plaisir. Je l'avais exprimé à Corinne Sénéchal, notre chef d'établissement, quand elle m'a proposé d'accompagner ce pôle, de rejoindre cette activité. Parce que c'est une activité et c'est un accompagnement qui nous touche tous à des âges divers et variés de la vie. On est tous impactés, concernés, plus ou moins proches de nous, par des personnes qui ont besoin d'aide à des moments un peu compliqués de la vie. Et c'est en ça que la santé mentale est au moins aussi importante que d'autres activités dans notre hôpital boulonnais.
La santé mentale, t'as quelque chose à dire là-dessus, Marianne ?
Oh, la santé mentale, j'ai fait, alors mais j'en parlerai plus tard, mais j'ai, parce que là l'émission va vraiment durer 4 heures et je pense que Transat FM, on ne va pas vouloir la diffuser, mais j'ai fait récemment la formation des premiers secours en santé mentale dans le cadre de mon travail, et je me dis, ouais, sur 2 jours, on va juste effleurer le truc, ça va être un peu tuyau de poil, quoi, et en fait c'est hyper intéressant en termes de déstigmatisation, c'est vraiment très très bien conçu. Par la CPM et tout le monde devrait se former à ça en fait. Je trouve que c'est vraiment très très bien fait.
Oui, je suis d'accord.
En tout cas, nous, les Boulons, on remercie le directeur de l'époque qui nous a accompagnés dans ce projet et les directeurs qui ont suivi, qui ne nous ont jamais lâchés. Ça, c'est important parce que cet atelier, il a vraiment raison de vivre. On est aussi très contents puisque quand on va déménager, on va bénéficier d'une pièce un petit peu plus grande que ce qu'on a aujourd'hui. Donc, on va avoir un petit peu plus d'espace qui va être assez sympa pour recevoir des gens. Parce qu'on est vraiment dans le partage de tout ce qui se fait dans le Boulonnais avec plein les associations, les partenaires. On travaille vraiment touchant, confondu pour accompagner les personnes qui ont besoin de nous. Et puis, en 2025, c'est quoi en 2025 ? C'est pas un... Je l'ai dit tout à l'heure.
Sur le thème ? Alors, c'est pour notre santé mentale, réparons le lien social.
Le lien social, voilà.
Et franchement, quand je nous vois là tous autour de la table, on est bien.
On est bien dans le lien social.
Ouais.
En tout cas,
on est à fond dans le thème.
Il y a Madame Sénéchal aussi que j'ai croisée ce matin qui s'excuse, qui est avec nous, mais qui ne peut pas être avec nous puisqu'elle a d'autres missions importantes. Et on remercie Madame Delmotte d'être venue nous rejoindre pour échanger avec nous. Ça touche beaucoup les intervenants. Ils sont toujours très touchés de vos présences, que ce soit les psychiatres, les directeurs, ça les touche beaucoup. C'est de la reconnaissance pour tout le monde et on vous en remercie.
Merci beaucoup. Ouais, puis en même temps, c'est l'occasion de vous rencontrer et encore une seconde belle rencontre, je crois, à ma gauche. Je vais vous présenter Isabelle Butti, qui est apparue à la table.
Eh bien, bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci pour votre accueil ce matin.
Je retiens.
Je vous en prie. Est-ce que vous voulez nous parler de votre parcours, en fait ?
Oui, donc j'ai été pendant 25 ans assistante de direction et puis il y a un an et demi, j'ai eu un burn-out professionnel J'ai mis très longtemps à mettre un mot sur les mots, parce que j'allais au travail coûte que coûte, et puis à un moment donné, mon corps a lâché, vraiment lâché comme un élastique qui claque d'un coup. Je me suis écroulée. J'ai mis quelques temps à me rétablir physiquement et psychologiquement, et puis j'ai rencontré une personne qui m'a tendu la main, qui se reconnaîtra, et elle m'a saisi cette main professionnellement. C'est une amie, elle m'a fait découvrir, rencontrer plein de monde, et grâce à laquelle aujourd'hui je suis assise à vos côtés. J'ai également rencontré des personnes formidables dans le mouvement vulnérable dont je vais vous parler aujourd'hui. Le mouvement vulnérable a vu le jour lors de la course des Capes. Je pense que vous en avez entendu plus précisément parler fin juin. C'est un mouvement qui a été initié par Alexandre Fayolle, qui est issu de 8000. Qui a voulu mettre en avant la vulnérabilité, c'est-à-dire qu'à un moment donné de sa vie, on est tous plus ou moins vulnérables, que ce soit professionnellement ou personnellement. Il peut vous arriver un événement lambda qui vous met entre guillemets HS à un moment donné. Mais le tout, c'est d'en ressortir plus fort, de savoir accepter une main tendue, comme moi je l'ai fait à l'époque, et de la vulnérabilité en ressortir une force. Aujourd'hui, si je vous dis le mot vulnérable, qu'en pensez-vous ? Pour vous, c'est du négatif, c'est du positif autour de la table ? Qu'est-ce que vous me répondez ?
C'est vrai que spontanément.
Qu'est-ce que vous me répondez ?
C'est plutôt négatif.
C'est plutôt négatif pour vous tous, spontanément.
Enfin, c'est mon avis. Hein.
Plutôt fragile.
Oui, voilà.
Associé à une incapacité.
Mais le tout, c'est de savoir accepter à un moment donné, oui, j'ai été faible, oui, j'ai été fragile, j'ai accepté une main tendue, je me suis ouvert aux autres. J'ai évoqué mes problèmes, j'ai accepté l'aide et aujourd'hui j'en ressors plus forte. Et aujourd'hui je suis plus forte qu'il y a un an et demi et je vais aider les autres. Pour mettre justement bien en phase la santé mentale, parce qu'on parle beaucoup de la santé physique, mais cette journée de santé mentale, ben, on en parle aujourd'hui, on en parle cette semaine, mais on devrait en parler tous les jours, 365 jours par an, parce que nous vivons dans une société où la performance est au cœur du quotidien. Oui, je dois être performant tous les jours, je dois montrer que j'ai le sourire, je dois montrer que je dois faire plus pour mon patron, je dois gérer mon boulot, mes enfants, les courses, la maison, et au bout d'un moment, je suis épuisée, mais je dois pas le montrer, et au fond de moi je sais que je vais pas bien, mais à un moment donné, stop, je dois m'écouter. Le conseil que je vous donnerai pour être passé par là, écoutez votre corps. Parce que quand votre corps vous dit stop et que l'élastique pète, souvent il est trop tard. Parce que plus l'élastique s'est tendu, plus vous allez mettre de temps à récupérer. Donc sachez dire stop avant et vous écouter.
Et là, malheureusement, c'est le moment où je dois vous dire stop. Déjà.
Déjà.
Mais on va devoir passer à notre pause musicale. Mais en tout cas, on a bien noté Isabelle.
Voilà.
Tout ce
merci
dont
vous
avez parlé. Et on reviendra vers vous, évidemment. On rappellera vos coordonnées en fin d'émission.
Merci pour votre écoute.
Merci à vous d'être venu et de votre témoignage. On va écouter une chanson de Amy Winehouse en pensant à notre ami Hugo qui l'avait choisi, qui s'appelle
Rehab.
Rehab.
Try to make me go to rehab. I said no, no, no. Yes, I've been black, but when I come back, no, no, no. I ain't got the time, and if my daddy thinks I'm fine, just try to make me go. Rehab, I won't go, go, go. I'd rather be at home with Brad. I ain't got 17 days. 'Cause there's nothing you can teach me. But I can learn from Mr. Hathaway.
C'est fou ce que la psychiatrie a changé.
L'homme qui n'entend pas la musique pense que le danseur est fou.
Les boulons.
Les boulons.
Les boulons.
L'émission des boulonnais.
De retour sur les boulons au centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer. L'équipe est super contente. Vous, si vous les voyez, c'est extraordinaire. Ils ont tous le sourire. C'est un vrai bonheur. On a aussi Norine qui va peut-être venir nous rejoindre à l'atelier radio un jour. Elle est la bienvenue. Moi, je voulais faire un petit message à Madame Palu, Sandy, qui est notre cadre supérieur de santé, dont c'était la demande qu'on participe aux semaines en santé mentale. Et je voudrais lui dire qu'on pose fort à elle, qu'on lui souhaite un prompt rétablissement et qu'elle nous revienne très vite en bonne forme et qu'on tient la barre haute comme elle nous l'a demandé. On a assuré. Voilà, merci beaucoup pour elle.
Bon, alors maintenant, on va céder la parole à Luc qui va nous présenter sa cadre, sa nouvelle cadre.
Exactement. Nous avons parmi nous notre nouvelle cadre du CATDP. Bonjour Madame Fortin.
Bonjour à tous.
Alors, première question, pourquoi êtes-vous venue au CATTP ?
Pourquoi je suis venue en psychiatrie ? Bien, tout d'abord, je tiens vraiment à vous remercier tous et je suis très impressionnée en ma première émission des boulons. Et je pense que ça a l'air d'être bien sympathique et je compte bien revenir. Alors, pourquoi je suis arrivée en psychiatrie ? J'étais auparavant cadre en faisant fonction cadre de santé en EHPAD, où j'y suis restée pendant un peu plus de 12-13 ans. Et j'avais besoin de renouveau et je suis ravie, j'ai postulé pour ce poste en psychiatrie et je suis ravie d'intégrer vos structures. Je suis arrivée le 15 septembre.
Eh bien parfait. Eh ben, merci d'être parmi nous.
C'est moi qui vous remercie.
Et puis bonne émission à vous.
Merci bien. Et encore merci à tous.
Merci bien.
Merci beaucoup. C'est super de pouvoir faire connaissance avec vous par ce biais. On va écouter le témoignage de Hugo. Alors, Hugo nous a fait un enregistrement de son témoignage parce qu'il a beaucoup de travail et qu'il ne pouvait pas être présent parmi nous. C'est un ancien...
chroniqueur.
Un chroniqueur tout court. Ouais. Yannick, s'il vous plaît.
Bah, il est ancien quand même, ça fait 9 ans.
Un ancien patient du CATTP, du bel envol, de plein de structures qu'on connaît en psychiatrie et qui est devenu père aidant. Donc, il a enregistré son témoignage récemment avec Luc, je crois. Et puis, tenais à signaler que la pause musicale qu'on a eue tout à l'heure de Amy Winehouse, c'est lui qui l'avait demandé parce qu'il travaille dans un centre... Enfin, il va vous raconter. Je laisse Hugo raconter.
Bonjour Hugo.
Bonjour Luc, bonjour les boulons.
Alors, première question, j'ai appris que vous étiez père aidant. Qu'est-ce que c'est qu'un père aidant ?
Oui, tout à fait Luc, donc je suis père aidant, ça depuis plusieurs années. Hein. En fait, le principe de la père aidance, il est assez simple, il repose sur l'idée d'entraide entre personnes qui souffrent ou qui ont souffert d'une même maladie. Donc là, en l'occurrence, c'est une maladie psychique. Et donc, c'est le fait de pouvoir s'entraider et de communiquer ensemble pour avancer vers un même but en prenant en compte des similarités dans notre vécu. Donc.
Ok, parfait. Mais en fait, vous dites communiquer entre vous, etc. Mais c'est un peu plus que ça, je trouve, quand même, parce que vous avez quand même eu une formation pour pouvoir faire ça.
En effet, je parlais là forcément de la père aidance dans ce qu'elle a de plus noble et plus riche, mais c'est vrai que moi, j'ai donc démarré en tant que père aidant, je vais dire, à partir du moment où j'ai commencé à m'intéresser aux associations, notamment le groupe d'entraide mutuelle, donc le GEM de Boulogne que j'ai créé avec maman, donc, qui s'appelle Le Bel Envol. Donc pendant 10 ans, j'étais président à peu près, hein, je compte pas tous les jours les années. Mais donc suite à ce parcours, donc, j'ai pu me professionnaliser donc, en utilisant cette expérience de père aidant et en l'utilisant de façon professionnelle.
D'accord, donc on peut être, si je comprends bien, vous m'arrêtez ou alors vous rectifiez, si je comprends bien, on peut être père aidant comme ça, de façon entre guillemets bénévole et puis de façon ponctuelle. Oui.
Tout le monde peut être aidant, je vais dire. Tout le monde, à partir du moment où on a des appétences avec une autre personne et qu'on échange et qu'on se met à trouver un terrain commun, tout le monde est père aidant. Après, c'est vrai que, comme vous le dites, on peut le faire exercer à différents niveaux. Après, on peut devenir, par exemple, patient-expert. Patient-expert, donc, qui va être une forme de père aidance, où là, ce sera en général plus du bénévolat. Donc moi, suite au diplôme, donc comme vous le disiez, je suis devenu médiateur santé père. C'est un diplôme qui a été mis en place par le CCOMS. CCOMS, c'est le Centre collaborateur de l'Organisation mondiale de la santé, donc c'est une démarche mondiale, et donc qui est basée, on peut être chauvin, c'est basé à Lille, pour la France. Donc j'ai pu passer une licence 3, sciences sanitaires et sociales, parcours médiateur santé père.
Ok. Bon, vous avez fait un sacré chemin quand même, on peut le dire, Hugo. Ouais. Parce qu'en partant justement de ce bénévolat, en fait, ouais. Maintenant vous êtes professionnel, vous êtes salarié, je pense, oui. si je ne me trompe, d'un hôpital, enfin d'une clinique plus exactement. Est-ce que vous pouvez m'en parler un petit peu ?
Ah, c'est donc je suis salarié de la clinique Les Oya à Calais. Donc ça fait 6 ans que j'exerce là-bas. La particularité des Oya, c'est que c'est une clinique de post-cure. Donc on fait de la réhabilitation psychosociale. Donc c'est en fait, les patients qui viennent chez nous, ils viennent là pour consolider une hospitalisation qu'ils ont fait dans un service psy plus classique, afin de travailler certains projets aussi. Ça peut être un projet logement, un projet professionnel, un projet de consolidation par rapport à une convalescence de la maladie, en fait.
Ok, mais vous, là-dedans, quelle est votre fonction, quel est votre rôle, en fait ?
Je suis là, en fait, pour véhiculer un message d'espoir pour les patients, hein, avant tout, parce que je me base sur mon savoir, on appelle ça le savoir expérientiel, ma connaissance de la maladie que je mets au service des autres pour les aider. Donc, forcément, il y a ce message d'espoir qui est véhiculé. Pouvoir leur donner envie de remettre le pied à l'étrier et d'avancer, de se reconstruire la vie, bien leur faire passer le message que c'est pas parce qu'on est tombé malade que la vie est finie, quoi. Il faut se remettre en condition pour reprendre une vie et peut-être adapter certains projets, changer. De toute façon, la maladie, quand elle nous frappe, c'est terrible, mais ça peut être positif, c'est que ça va changer notre façon de voir la vie, notre faculté à rebondir et pouvoir s'adapter. Et donc, c'est pas en étant, parce qu'on est malade, qu'on est des nuls ou des bons rien, quoi.
Alors, vous ne pouvez pas le voir, mais lorsque parle Hugo, ça pétille sur les yeux, c'est beau à voir. Ça se passe comment, en fait ? Par des ateliers, par des consultations ? Comment ça se passe ?
Ah oui. Donc, mes missions au sein de la clinique, elles sont diverses. D'abord, je fais des entretiens individuels avec les patients, donc pour faire un état des lieux un peu de la situation dans laquelle ils se trouvent. Donc, ça peut délier les langues et donc avoir une approche avec la personne qui est différente, finalement. Et ça peut permettre de débloquer certains leviers parce que il y a une confiance qui s'installe entre nous.
Eh bien, c'est parfait. Ben, je vous remercie, Hugo. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter ou alors à exprimer ou à revendiquer
En fait, en psychiatrie, on ne parle pas de guérison, on parle de rétablissement. Une vision du rétablissement, c'est que l'objectif du rétablissement, de l'expérience de rétablissement, n'est pas nécessairement de retrouver la sensation en termes de rémission de symptômes. Donc on peut vivre sa vie avec les symptômes, mais il s'agit plutôt pour une personne de parvenir à utiliser ses ressources personnelles, environnementales, avec son contexte dans lequel on évolue, afin d'atteindre un état de bien-être et d'équilibre dans les conditions de vie qu'on choisit, en fait. On a le droit de choisir son parcours. Le rétablissement, ça ne veut pas dire qu'on ne va plus prendre de médicaments, par exemple, ou qu'on ne va plus avoir de symptômes, comme je disais. mais c'est plutôt changer son opinion, de son regard sur la vie, trouver les moyens de faire face avec ses moyens. Et donc voilà, donc cette démarche qui va permettre de reprendre en main sa vie et découvrir qui on est, comment on a évolué, et savoir profiter de chaque instant. Voilà.
Ben merci bien pour ce témoignage, Hugo. Et puis, ben je vous retrouve prochainement dans d'autres émissions en tant que chroniqueur. Au revoir, Hugo.
Au revoir, Luc. Merci.
Eh ben merci beaucoup pour ce beau témoignage de Hugo et de Luc qui l'a interviewé. C'est super chouette et inspirant. Ça me donne plein d'envie. On va passer maintenant à une chronique de notre chroniqueur, notre grand chouchou sportif, qui va s'adapter aujourd'hui. Et qui va nous parler de sport et de santé, c'est ça, Michel ?
Oui, c'est ça, oui. Donc, je vais vous parler du sport en santé mentale, les bienfaits et aussi les méfaits, puisque si on le pratique trop à outrance, on risque d'avoir des problèmes et ne pas arriver aux limites qu'on s'était...
Fixé.
Mais en général, le sport ou l'activité sportive doit être un allié pour le malade en santé mentale, s'il est pratiqué raisonnablement, comme par exemple une marche en forêt, un endroit très agréable, pour une sortie d'une heure avec des amis et parents avec lesquels on pourra discuter de choses et d'autres, et se confier et au besoin recevoir des conseils. Cette marche doit être effectuée à un rythme raisonnable. Surtout ne pas se mettre, comme on dit, dans le rouge, ce qui provoquerait un effet inverse pour un résultat négatif. Ce qui est bien aussi pour la santé mentale, c'est assister à des compétitions sportives. Ça peut avoir un effet thérapeutique. Alors, moi, personnellement, je pense au basket, parce que le basket, j'adore ça. Je l'ai pratiqué. Et ça peut constituer un remède pour le malade en santé mentale et permet de rencontrer des personnes avec qui on pourra dialoguer et discuter de ce que l'on a vu lors de cet événement sportif. Si besoin est, il est recommandé de consulter un médecin qui pourra vous conseiller sur telle ou telle activité sportive. Dans ce cas, il faudra s'entourer de personnes qui pourront vous aider et vous épauler et éviter, dans le cas d'un sport individuel, de ne pas aller au-delà de ses limites, ce qui inverserait l'effet escompté. Si l'on n'a jamais pratiqué un sport, il ne faut pas brûler non plus les étapes et éviter de se lancer trop vite et prendre confiance en soi et ne pas se dévaloriser non plus. Pour exemple, je vais vous citer l'hôpital psychiatrique qui renferme une salle de sport avec vélo d'appartement, vélo elliptique, tapis de course, rameur, qui est encadré par une infirmière spécialisée, Christelle, pour ne pas la nommer, où l'on peut pratiquer l'activité préconisée par cette dernière et qui doit rester dans ses cordes pendant son séjour à l'hôpital. Alors pour résumer, le sport que l'on choisit peut contribuer à entretenir une bonne santé mentale du moment que l'on n'essaie pas de dépasser ses limites. C'est une excellente thérapie et si on a la volonté de le faire et le mental, c'est primordial. Et je vais citer un exemple, Jimmy Gressier, qui a un mental de fer, puisqu'il a gagné le championnat du monde de 10 000 mètres il n'y a pas très longtemps.
Voilà. Et on salue sa grand-mère qui vient au cet été. Ouais.
Et Jimmy, si vous nous écoutez, vous êtes le bienvenu au boulon.
Quand vous voulez, Jimmy.
Ah, ouais, Michel, vous êtes prêt à l'interviewer.
Ah oui, je suis prêt à l'interviewer. J'ai beaucoup de choses à lui demander.
Michel, le sport en santé au centre de psychiatrie, ce n'est pas que Christelle. Il y a aussi les ergothérapeutes qui font de la balnéo, il me semble qu'ils font de l'aquagym. Ils font de la randonnée, ils font de la marche nordique. Enfin, voilà. Et pareil, au CTTP, vous faites aussi de la randonnée. Vous faites aussi de l'aquagym, je crois, de temps en temps.
Aussi,
à l'hôpital de jour aussi, c'est aquatique et sportif.
Oui,
je crois que dans toutes nos structures existantes en psychiatrie à Boulogne, on pratique le sport en santé.
Et justement, avec thème du lien social dont tu as beaucoup parlé, c'est vrai qu'on est en plein dedans aujourd'hui. Voilà, c'est parfait. Merci Michel. Nous passons donc à un micro-trottoir, ou plutôt un micro-hall, qu'ont réalisé Thomas et Virginie dans le hall de l'hôpital ce matin. Et la question, c'était, si on vous dit santé mentale, vous pensez à quoi ?
Problème de mal-être, voire plus grave.
Je pense.
Ouais. D'accord. Ouais.
Ok, merci. Si on vous dit santé mentale, vous pensez à quoi ?
Psychiatrie.
Okay.
Je connais quelqu'un.
Vous avez quelqu'un proche qui est...
Oui, un proche, exact.
D'accord.
Abandon, il s'abandonne complètement chez lui, il était seul, sa maman est décédée, il a divorcé, il a s'est jamais remis avec quelqu'un, et puis ben, il s'est laissé, et heureusement que ma belle-sœur était là pour l'emmener en psychiatrie. Elle a fait venir les pompiers qui ont bien voulu se déplacer.
Mmh.
Et là, il a été soigné durant une quinzaine de jours, et ça va beaucoup mieux.
Bon,
voilà.
La psychiatrie fonctionne.
Voilà, la preuve.
Bon, merci, madame.
Dépression. Oui.
D'accord. Merci.
Maladie. Ouais.
Madame. C'est quoi la santé mentale ?
La santé mentale.
C'est quelqu'un qui a du mal à s'exprimer. Je sais pas, ils ont besoin d'aide. Des psychologues, des médecins pour écouter.
C'est quoi la santé mentale ? C'est de se sentir bien, de se sentir bien dans sa peau et de se sentir bien avec les autres.
Très bien, merci beaucoup.
Voilà.
Très gentil, merci.
C'est tout ?
Merci, oui.
Bon, bon courage, c'est bien ce que vous faites.
Merci. C'est bon pour vous la santé mentale.
Les problèmes psychologiques ?
Oui.
Pour moi, c'est tout ce qui peut être difficulté par rapport au travail.
D'accord.
Donc, la pression du travail qui fait que des fois, on a les burn-out, tout ça, ouais, tout à fait.
C'est une maladie, c'est... Ouais. Bah oui, faut pas avoir honte, faut pas. Ça peut arriver à tout le monde. À tout le monde. Moi, je suis bien, je peux avoir une maladie mentale demain. Vous êtes comme nous. Voilà.
Merci.
Pour vous, c'est quoi la santé mentale ?
La santé mentale, je dirais bien se sentir dans son corps, quelque chose comme ça.
Oui.
Être en forme, bien se sentir psychologiquement. Voilà.
D'accord.
Voilà.
Merci beaucoup.
De rien, madame.
Ça veut dire être bien dans sa tête, ne pas avoir d'anxiété, et avoir confiance en l'avenir, ne pas avoir peur, ne pas s'inquiéter, pouvoir être tranquille. C'est ce que ça veut dire pour moi, la santé mentale.
Ouais. Merci beaucoup, mesdames.
Merci.
Merci pour ce micro-trottoir, très intéressant. On va revenir sur les infos qui ont été données aujourd'hui tout au long de cette émission avec les coordonnées. Je peux vous rappeler déjà le CMP qu'il faut oser appeler. Cynthia nous avait donné les coordonnées des deux CMP. Est-ce que vous voulez les rappeler, Cynthia ?
Oui, bien sûr.
Je vous prends un peu au dépourvu. Si vous voulez juste nous rappeler numéros de téléphone des deux CMP.
Je vous en prie, je suis là pour ça. Donc le numéro du CMP Nord, Place Navarin, c'est le 03 21 99 38 79. Le numéro du CMP Sud, rue Edmond-Edouin, c'est le 03 21 87 62 65.
Anne va pouvoir nous donner le numéro du CATTP.
Oui, alors c'est le 03 21 87 60 31.
Est-ce qu'on avait d'autres...
L'hôpital de jour.
L'hôpital de jour,
je suis vexée.
Ouais, justement, j'avais noté, mais tu connais le numéro
par cœur. Un petit peu par cœur. 0321 99 30 39.
Voilà. On avait aussi Isabelle Buty qui nous avait parlé de son association Vulnérable. Le 06 62 79 11 56. Est-ce qu'il y a d'autres numéros ?
Ouais. Alors le centre de psy. Vas-y, Yannick.
03 21 99 30 36 pour le secteur nord, 30 37 pour le secteur sud.
Voilà.
Je
voulais quand même parler de l'association Agatal, qui joue quand même un rôle pas des moindres au sein du centre de psychiatrie et de toutes les structures qui y sont rattachée, donc association, qui a pour vocation de gérer les appartements associatifs. 24 places, je rappelle, 17 logements dans la cité permettant de reloger les usagers pour lesquels il y a des difficultés avec un suivi vraiment de qui se fait de très très proche, hein, un suivi infirmier via le CMP Sud. L'association également permet de financer les animations du centre de psychiatrie, gère la cafétéria du centre de psychiatrie, voilà, permettant de ramener un peu d'argent et de financer des séjours, financer, mettre à disposition de l'argent de service, aider le CATTP, hein, qui n'a pas de budget de fonctionnement, donc qui bénéficie forcément de l'aide de l'association. Voilà.
Merci l'Agata.
Elle joue quand même un rôle
important. Même les boulons, on est cofinancés par l'Agata.
On remercie aussi tous les collègues du centre de psychiatrie qui sont venus nous voir. Accompagné de patients. C'est super sympa d'être là. On remercie aussi la cellule de communication.
En effet, Florence et Delphine, qui nous ont permis d'être là.
Ils sont toujours là avec nous.
Voilà, les directeurs, forcément, qui ont donné les accords, etc. etc.
Et là, il y a Madame de Cavel, la directrice qualité de l'établissement, qui était l'ancienne directrice du pôle santé mentale. On remercie de son passage.
À titre honorifique.
Et ben on a rempli notre mission, Mme de Cavel.
Donc, on a fait une super émission.
Ouais, c'était bien. Oui, allez-y, prenez le micro.
Je dis, vous êtes tous géniaux.
Merci. Donc, on va donner les petites dates pour la prochaine émission et puis on laissera la parole à Vanessa pour sa pause musicale. Donc, la prochaine émission aura lieu le samedi 29 novembre à 13h ou le dimanche 30 novembre à 15h. Voilà, et on laisse Vanessa maintenant nous présenter sa petite pause musicale pour finir cette émission consacrée à la Journée mondiale de la santé mentale. À toi, Vanessa.
Donc j'ai choisi de passer pour conclure cette belle émission, Ma liberté de penser de Florent Pagny.
Merci beaucoup, merci à tous. Bonne écoute.
Bravo.
Quitte à tout prendre, prenez mes gosses et la télé, ma brosse à dents, mon revolver, la voiture, ça c'est déjà fait. Avec les interdits bancaires, prenez ma femme, le canapé, le micro-ondes, le frigidaire, et même jusqu'à ma vie privée. De toute façon, à découvert, je peux bien vendre mon âme au diable. Avec lui on peut s'arranger, puisqu'ici tout est négociable. Mais vous n'aurez pas ma liberté de penser. Prenez mon lit, les disques d'or, ma bonne humeur, les petites cuillères, tout ce qu'à vos yeux a de la valeur et dont je n'ai plus rien à faire. N'oubliez pas le shit planqué sous l'étagère. Tout ce qui est beau et compte pour moi, je préfère que ça parte à la Bévière. Je peux donner mon corps à la science. S'il y a quelque chose à prélever et que ça vous donne bonne conscience, mais vous n'aurez pas la liberté de penser. Liberté de penser. De penser. Quitte à tout prendre et tout solder pour que vos petites affaires s'arrangent, je prends juste mon pyjama rayé, je vous fais cadeau des oranges. Vous pouvez bien même tout garder, je j'emporterai rien en enfer. Quitte à tout prendre, je préfère y aller si le paradis vous est offert. Je veux bien vendre mon âme au diable. Avec lui on peut s'arranger. Puisqu'ici tout est négociable. Mais vous n'aurez pas, non vous n'aurez pas ma liberté de penser. Ma liberté de penser.